page 7 du quotidien Le Droit ce matin, le procès d'un jeune autiste avorte, et c'est un genre de revirement au palais de justice d'Ottawa. Je comprends mal dans quelles circonstances. Avec nous pour nous en parler, du quotidien Le Droit, le journaliste Louis-Denis Bachère. Comment ça va, Louis-Denis?
Ça va bien, Michel.
Hey, merci beaucoup d'accepter l'invitation ce matin. Je comprends mal. 5 semaines d'audience, une histoire qui remonte en novembre 2016. Un jeune autiste, 24 ans, qui est accusé d'avoir tué ses parents. Et là, soudainement, on arrête le procès. Explique-nous, démêle-nous ça un petit peu, Louis-Denis.
Bon, écoute, c'est que le jeune Cameron Rogers, qui est dans le box des accusés présentement, est envoyé chez le psychiatre à la demande de la défense, à la demande de ses deux avocats de la défense, pour avoir un rapport psychiatrique, comme ça se fait souvent dans le cadre de procès. Il lance à son psychiatre, là, comme ça, en éclair, 2 ans après les faits, là, qu'il était abusé sexuellement par son père quand il était enfant. C'était une information, ça, qui n'était pas connue des policiers, ni de la couronne, ni de la défense, de personne, finalement. Mm-hmm. Alors, on s'entend que c'est une information qui est extrêmement importante, extrêmement sensible, et qui peut changer beaucoup de choses, parce que le jeune Cameron est accusé de meurtre prémédité, hein, de meurtre premier degré. Mm-hmm. C'est l'accusation la plus grave du code criminel. Alors, est-ce que ce genre de truc-là, ça fait que, il y a des facteurs qu'on n'a pas pris en compte dans la preuve de la couronne. Ça change tout ou presque. Alors, c'est pour ça que le juge a demandé un certain délai à parler de ça à la couronne et à la défense à huis clos. Et évidemment, on s'est rendu compte que la couronne aura besoin probablement d'une contre-expertise d'un psychiatre engagé par elle-même pour contre-vérifier ces informations-là. Alors, ça prend du temps. Mmh. Et un psychiatre judiciaire, là, ça se commande pas comme ça. Alors, la couronne aura besoin de plus de temps, c'est-à-dire jusqu'à au moins 2019, février, pour avoir les services de ce psychiatre-là et qui sera disponible à ce moment-là. Alors ça entraîne des délais, évidemment. Mais un procès devant jury, comme c'est le cas pour les procès de meurtre, il y a des gens là-dedans. Il y a du monde comme toi et moi, Michel. Mm-hmm. C'est 12 personnes. Et ces personnes-là ne peuvent pas travailler quand elles sont réquisitionnées, disons, par le tribunal. C'est 5 semaines, 6 semaines, c'est déjà beaucoup. Ils ont des familles, ils ont des emplois du temps, ils sont à l'école, ils sont au travail. Déjà qu'à 6 semaines, se libérer 6 semaines, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, Michel, mais c'est très long.
Ah non, c'est un problème. Il y a bien des gens qui veulent rien savoir des procès puis qui demandent par tous les moyens d'éviter d'être choisi comme membre d'un jury quand on est appelé. Mais là, ce que tu me racontes, Louis-Denis, c'est que là, dans le fond, c'est un procès qui est reporté parce que c'est pas terminé pour autant. On va peut-être revoir les accusations, on va peut-être modifier également certaines choses, mais c'est parce que ça donnait l'impression que le jeune était comme, entre guillemets, acquitté parce que là, soudainement, il déclare qu'il avait été agressé sexuellement. Là.
Non, il n'est pas acquitté. C'est que là, c'est en suspens. Mm-hmm. Hors jury, la défense et la couronne vont discuter de ce qu'ils font avec le procès. Est-ce qu'ils recommencent un procès ou est-ce que ça s'en va devant un juge seul, sans mm-hmm. jury, devant mm-hmm. le même juge, mais sans jury? C'est toutes des clauses du code criminel puis du code de procédure qui vont être discutées dans les prochaines semaines. Donc, c'est ça. C'est que là, finalement, il n'y a pas de jury. Est-ce qu'on reprend un nouveau jury? Est-ce qu'on reprend le procès? Ouais. Il y a différents scénarios qui vont être établis. Mais tout ça pour dire que le jury qui était mis en place, il y en a au moins 3 qui ne pouvaient absolument pas revenir en février. Alors, ça fait qu'il reste seulement 9 des 12 jurés. Alors, le juge Kevin Phillips lui a dit, on n'a plus un jury qui est normalement constitué. Je dois dire ça de le jury. Merci beaucoup. Je vous renvoie à la maison. Votre tâche est terminée. Donc, en anglais, ce qu'on a dit, c'est mistrial, c'est un avortement de procès.
Toi qui as une bonne expérience de comment ça se déroule des procès pour en avoir vu plusieurs dans ta vie, là, c'est assez rare qu'il arrive comme ça, qu'il sort un lapin du sac de même dans un procès, qu'un jeune ou qu'un accusé n'ait pas, que la couronne ne sache pas dans le cadre de la préparation d'un procès, qu'il y a pu avoir des antécédents entre l'accusé d'un meurtre puis la victime d'un meurtre. Normalement, on vient à bout de savoir comment ça se déroulait, la relation entre ces personnes-là, au préalable, avant oui. La commission des actes.
Oui, effectivement. C'est très rare. Je ne me rappelle pas d'avoir vu ça. En plus, devant un procès, devant un jury, là... Honnêtement, j'ai pas souvenir de ça. Déjà, tu vois, il y a une dizaine d'années, quand je commençais, j'avais pas nécessairement cette expérience pour revoir tout ça dans le fin détail pour comprendre ce qui se passait. Mais des procès qui avortent, ça existe. Devant un juge seul, ça existe. On l'a vu dans le dossier du côté de Gatineau, Ronald Junior Brazo. On a recommencé le procès de Ronald Brazo pour un des deux homicides pour lequel il est accusé. C'était pour des questions de droit, disons, de droit pur, de droit un peu plus théorique, c'est-à-dire que la couronne avait donné une preuve contradictoire dans le cadre de son procès, et ça, selon le code criminel, c'est pas permis, là. Mais non, c'était pas devant le jury, là.
Écoute, on va voir qu'est-ce qui va survenir. Entre-temps, les parties vont se parler. On verra bien comment ça va survenir. Mais rappelle-nous, le jeune avait fait ça, lui, au mois de novembre. Comment ça s'était passé, tout ça? Il s'était sauvé, si je me souviens bien, Louis-Denis. Hein?
Oui, c'est ça. C'était en novembre. Les parents n'étaient plus présents à la maison. C'était dans le quartier Carlton Heights à Ottawa. Et le jeune avait quitté, tout simplement, après son crime, à Montréal. Et il avait erré pendant quelques temps et il avait, de son propre chef, il avait appelé la police de Montréal pour dire qu'il avait tué ses parents. Alors évidemment, la SPVM a repris le cadran de téléphone et a appelé à la police d'Ottawa pour leur dire que il y avait un jeune du nom de Cameron Rogers qui avait fait des déclarations assez troublantes. Et la police d'Ottawa a fait des vérifications. Et puis, à ce moment-là, c'est évident que le jeune a été interpellé, a été amené à Ottawa pour interrogatoire. Et puis, le procès, on en est là aujourd'hui, 2 ans plus tard.
Est-ce que le fait qu'il soit autiste, ça change quelque chose dans le procès, Louis-Denis?
Je ne saurais dire. En tout cas, il est apte à subir son procès. Ça, c'est la première des choses. Il a beau être autiste, il semble comprendre ce qui se passe. Le fait qu'il soit autiste, est-ce que c'est... Je ne saurais pas...
Les conséquences de l'agression sexuelle potentielle présumée sur un enfant autiste, est-ce qu'elles sont les mêmes que sur un enfant qui est normal? Si on peut se poser la question également?
On peut se poser la question. Je ne pourrais pas répondre à ça. Je ne suis pas psychiatre. Mais en tout cas, l'histoire de la santé mentale des clients, de la défense, ça semble les préoccuper énormément, effectivement.
Louis-Denis, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. Vraiment apprécié. Excellent travail, soit dit en passant, dans le quotidien Le Droit. On se reparle très bientôt, je l'espère.
Au plaisir.
Merci. Louis-Denis Ebacher, que vous pouvez suivre les actualités judiciaires dans le quotidien Le Droit. Lui, au Palais de justice, c'est comme son deuxième chez lui. Il est installé là, surveille les causes, autant du côté de l'Outaouais québécois que du côté d'Ottawa. Un travail que moi, j'ai fait à mes débuts à la radio. À cette époque-là, on avait des correspondants dans les palais de justice. On avait des plus grandes salles des nouvelles. Et ça, c'était toujours intéressant de voir comment fonctionne l'appareil juridique. J'y étais, je voyais certaines choses, je voyais certains procès. Une histoire comme celle-là, c'est assez particulier. Est-ce que le fait que le jeune de 24 ans soit autiste, ça aura une incidence sur la suite des événements? Est-ce qu'on va mesurer le fondement de sa déclaration sur les agressions sexuelles qu'on ne savait pas auparavant? C'est pourquoi on a suspendu le procès, du moins on l'a arrêté pour l'instant. Est-ce qu'on va reprendre un nouveau procès? Tout ça reste à voir en 2019.